L'actualité des idées comme chaque jour dans cette dernière partie de la Grande Table. Les Nations Unies, quel remède à la paralysie? On en parle avec vous, Antoine Mercier, à mes côtés pour interroger notre invité, le sociologue suisse Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial auprès de l'ONU sur la question du droit à l'alimentation dans le monde, aujourd'hui vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies. Vous avez re-signé pour 3 ans. Parmi la vingtaine d'ouvrages dont vous êtes l'auteur sur la Suisse, les Nations Unies, la mondialisation ou encore les crimes du capitalisme, citons Le bonheur d'être suisse, paru en 1994, L'empire de la honte en 2005, Destruction massive géopolitique de la faim, paru au Seuil en 2011, ou encore La haine de l'Occident, essai dans lequel vous plaidez pour un nouveau contrat social planétaire fondé sur la solidarité et le dialogue entre le Sud et l'Occident. Avec Chemin d'espérance, Jean Ziegler, qui vient de paraître au Seuil, vous faites à nouveau œuvre de mémoire. C'est un nouveau temps d'arrêt, tel que vous le définissez, un nouvel inventaire des combats menés, parfois gagnés, parfois perdus, du dernier quart de siècle. Un recueil d'espérance aussi, nourri de vos combats et une tentative d'évaluer la part que vous y avez pris. Jean Ziegler, l'homme qui dit vouloir mourir vivant et qui se définit comme un bolchevique qui croit en Dieu, bonjour.
Bonjour.
Ce livre, c'est donc pour vous un temps d'arrêt, un regard sur le chemin parcouru et vers ce qu'il reste de motifs d'espérance, regard vers le passé, regard aussi vers le futur. Un succès, un échec, comme ça, au débeauté, pour vous?
Personnellement, le sens, c'est une interrogation, chemin d'espérance, c'est une interrogation sur mon... modestement, hein, sur mes combats essentiellement depuis 15 ans à l'intérieur de la diplomatie multilatérale, donc des Nations Unies, dont j'occupe un certain nombre de postes successifs. Le bilan, ce ne sont pas des mémoires, ça je déteste parce que ça sent la mort, hein, ces mémoires, je ne veux pas. C'est un arrêt au bord du chemin où je m'interroge sur le sens des combats menés et l'espérance qui nous reste à réaliser, qui est réelle, où nous vivons, je dis ça très très vite, nous vivons sous un ordre cannibale absurde du monde actuellement. Tous les 5 secondes, c'est le chiffre des Nations Unies, tous les 5 secondes un enfant de sous de 10 ans meurt de faim ou de ses suites immédiates, et le même World Food Report de la FAO qui donne les chiffres des victimes dit que l'agriculture mondiale pourrait nourrir normalement tous les jours 12 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire presque le double de l'humanité.
Qu'est-ce qui se passe entre les deux?
La faim est faite de main d'homme. C'est les structures capitalistes dominatrices mondiales aujourd'hui. Cette oligarchie qui a érigé du capital financier globalisé, qui a érigé une dictature sur la planète, qui échappe à tout contrôle étatique, syndical, parlementaire, etc., qui fonctionne selon un seul principe, la maximalisation du profit, et qui a un pouvoir, cette oligarchie financière, très mince, un pouvoir politique, économique, idéologique, militaire, comme jamais un roi, jamais un empereur, jamais un pape n'a eu sur cette planète. Il faut briser cet ordre cannibale du monde.
Et pourquoi les politiques ne peuvent pas le faire?
Les politiques, c'est nous qui devons le faire. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. La France, c'est une grande, puissante démocratie où le citoyen et citoyenne ont tous les droits, constituent le gouvernement par délégation, peuvent aller jusqu'à la grève générale, peuvent imposer les réformes essentielles. Je prends un seul exemple, la spéculation boursière sur des aliments de base, qui est tout à fait légal selon la loi partout en Europe et aux États-Unis, qui donne des profits astronomiques justement aux Goldman Sachs et aux autres spéculateurs et hedge funds, mais qui dans les bidonvilles du monde, quand les prix du maïs, du blé et du riz explosent sous le coup de la spéculation boursière, fait que la mer, il y a 1,1 milliard de personnes qui vivent dans les bidonvilles du monde, où la mère doit acheter avec très très peu d'argent la nourriture quotidienne des enfants, ben, si le prix du riz explose, elle ne peut pas acheter suffisamment, et à la maison, les enfants périclitent et meurent. On peut interdire demain matin la spéculation boursière sur les aliments de base. Ça dépend de nous, de l'insurrection de conscience dans les pays démocratiques. Et Dieu sait que la France est une démocratie où le citoyen, je prends la France, je voulais prendre l'Allemagne, les États-Unis même, malgré les dernières élections, où le citoyen, la citoyenne...
Mais pour qui il faut voter alors, pour faire votre programme? Pour qui il faut voter?
Moi, je dis simplement...
Vous dites en France. Tout est gentil, clair.
Il faut non, voter la gauche, je ne veux pas...
Ah oui, quelle gauche?
Non,
mais ça va vous entraîner sur un autre débat,
dire, c'est qu'il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Il n'y a pas d'impuissance. Si nous discutions en Honduras ou à Pékin, ce serait autre chose. Mais discutant à Paris, il n'y a pas d'impuissance. Et chacun de nous est responsable, a les moyens de contribuer à abattre cet ordre cannibale du monde par des réformes démocratiques, pacifiques, que la Constitution permet. Interdiction du vol des terres fertiles par les hedge funds, les Bolloré, etc., les Villegrains. En Afrique, par exemple, l'année dernière, 41 millions d'hectares de terres fertiles ont été achetés par la corruption, etc., etc., ont été accaparés par les hedge funds, les grandes banques occidentales et notamment françaises. Les paysans expulsés dans les bidonvilles des mégapoles. Eh bien, on peut interdire le vol de terres, pas seulement en Cisjordanie, mais en Afrique. La loi le permettrait. On pourrait désendetter les 50 pays les plus pauvres du monde. C'est une décision du FMI où la France, par exemple, a une grande et puissante influence et à la Banque mondiale, désendetter, biffer la dette extérieure des 50 pays les plus pauvres pour qu'ils aient un tout petit peu d'argent pour investir dans leur propre agriculture. La faim dans le monde est faite par la main d'homme, peut être brisée demain matin par l'homme.
Voilà, alors on entend bien vos combats depuis toujours, Jean de Sigler, la malnutrition chronique, avec cette faim faite de main d'homme, et cet assassin qui a pour nom la dette, vous l'exposiez déjà dans l'Empire de la Honte il y a une dizaine d'années, le FMI dont vous avez régulièrement critiqué l'action, qui privatise les services publics et qui conduit à leur dégradation et à des conséquences tragiques, notamment sur la santé publique et l'alimentation des pays du Sud, des pays les plus pauvres, les États-Unis aussi, que vous accusez depuis toujours d'être le bras armé des entreprises multinationales et qui ont trop souvent, à vos yeux, refusé des conventions internationales importantes. Il y a aussi enfin la théorie libérale du ruissellement que vous avez exposée. Vous vous y opposez. Selon cette théorie, les plus riches, par leur consommation et leurs besoins, créent des débouchés et de l'emploi. Pour en revenir à cet ouvrage, Chemin d'espérance, cette pause, ce temps d'arrêt que vous souhaitiez pratiquer, Jean de Sigler, vous faites surtout part de vos inquiétudes dans cet ouvrage sur la pérennité de l'ONU, des Nations Unies, que vous avez longtemps servi et que vous servez encore, à qui vous souhaitez une autre fin qu'à la société des nations morte, selon vous, de son manque d'universalité et de son manque de moyens, de contraintes pour assurer la sécurité et la paix. Le maintien de la paix dans le monde. Qu'est-ce qui, selon vous, menace aujourd'hui l'ONU? Qu'est-ce qui le menace? C'est sa paralysie?
Oui, votre question est tout à fait fondée, évidemment. Les Nations Unies ont été fondées par les alliés victorieux sur le fascisme à la sortie de la boucherie de la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement Roosevelt et Churchill. On dit plus jamais il aura de la guerre sur Terre. Nous allons éliminer la misère et nous allons garantir les droits de l'homme pour tous les êtres humains sur Terre. Ça, c'était les trois buts. C'est l'horizon que les Nations Unies ont dressé dans la charte et dans la déclaration universelle. Aujourd'hui, 71 années après la naissance de la charte, et bien les Nations Unies sont paralysées. Je prends des exemples très simples. Les Nations Unies sont au bord de l'implosion, qui peut-être va arriver avec une décision de Trump de se retirer. Tout le monde le craint. Il y a la panique qui règne à l'East. J'étais récemment de nouveau à New York. Eh bien, dans le gratte-ciel de l'East River, les gens ont peur de finir comme la Société des Nations, dans la déréliction et l'insignifiance la plus totale. Au Palais des Nations de Genève, la même panique règne ces jours-ci, si vous regardez, je prends uniquement le chapitre sécurité collective, une des grandes décisions des Nations Unies, c'est le chapitre 7 de la charte. C'est-à-dire assurer la sécurité collective sur Terre, bannir la guerre. Quand un État attaque un autre, il devrait trouver face à lui l'ensemble des États. Vous regardez ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, depuis 5 ans une effroyable boucherie. Il n'y a pas un seul casque bleu sur une seule ligne d'armistice. Il n'y a pas un corridor humanitaire dans aucune des 41 villes syriennes qui sont encerclées et les gens sous-alimentés meurent de faim. Il n'y a pas une interdiction de vol des bombardiers au-dessus des quartiers civils. Les Nations Unies sont totalement absentes à cause du veto. Donc il faut que ce veto disparaissent. Vous pouvez prendre le Darfour, là c'est le veto chinois qui protège un dictateur effroyable islamiste à Khartoum, Omar Béchir, et qui massacre 3 peuples africains au Darfour, dans l'ouest du pays. Vous pouvez prendre la tragédie palestinienne où le veto américain empêche toute intervention possible à Gaza et ailleurs.
Mais si j'en reviens à la Syrie, encore un conseil de sécurité des Nations Unies, Jean Ziegler, aujourd'hui qui se tient en urgence comme toujours à New York, sur la situation très critique à Alep-Est, ça ne servira à rien. Tant que le droit de veto existera, il ne se passera jamais rien après conseils de sécurité.
Le fait que vous énoncez est juste, évidemment. Mais mon livre s'appelle « Chemin d'espérance ». Et l'espérance est
tout à fait... Vous ne lâchez pas votre optimisme tout au long
de l'ouvrage. Non, ce n'est pas un optimisme idéaliste. Je déteste les idéalistes. C'est la matérialité des choses qui compte. Je vous dis, il y a... Je vous donne un seul exemple. Trois mois avant de quitter le secrétariat général, Kofi Annan a déposé son testament politique en octobre 2006. Un plan de réforme fondamentale du Conseil de sécurité où il proposait d'exclure, de rendre caduc le droit de veto chaque fois dans un conflit où il y a des crimes contre l'humanité, ou des crimes contre l'humanité, pour que les Nations Unies puissent renaître et la diplomatie multilatérale finir avec les conflits. Il y a 10 ans, c'était 10 ans, les grandes puissances, y compris la France, ont enterré ce plan dans le tiroir le plus profond. Ils sont vraiment profonds, hein, aux Nations Unies. aux Nations Unies, aujourd'hui, au Quai d'Orsay, au Foreign Office, au House of Representatives, au State Department, on ressort ce plan. Pour une raison très simple, horrible, c'est que cette guerre syrienne qui peut durer 20 ans, 30 ans, si les Nations Unies n'interviennent pas, produit des conséquences horribles au cœur même des puissances permanente du Conseil de sécurité à Paris, à Nice, en Normandie, à Boston, dans le métro de Londres. Les fous djihadistes, ces monstres produits par ce CDI, tuent. Et les grandes puissances se rendent compte que si les Nations Unies ne renaissent pas, reprennent la force et que la diplomatie multilatérale n'arrive pas à terminer, par exemple, le conflit syrien, eh bien, les ravages que font ces monstres djihadistes dans nos pays occidentaux vont s'amplifier. Et donc, ces nouvelles situations forcent nos gouvernements à reprendre la proposition de Kofi Annan, l'espérance fait renaître, par l'interdiction du veto, renaître les Nations Unies qui restent l'espérance. Sans les principes de la charte et de la déclaration universelle, il n'y a pas de civilisation sur Terre.
En tout cas, pour l'instant, Jean Ziegler, à défaut d'espérance, il y a de la désespérance, y compris dans la voix des porte-parole des Nations Unies concernant la Syrie et plus particulièrement Alep, l'ONU qui a condamné hier la descente aux enfers vécue par les civils actuellement. Retour sur parole.
C'est un nouvel échec pour la diplomatie internationale. Les combats ont repris de plus belle en Syrie, malgré l'accord de cessez-le-feu négocié par les Russes et les Américains. Hier soir, un raid aérien a frappé un convoi humanitaire près d'Alep, faisant une 20aine de morts. L'opposition accuse le régime et son allié russe d'être à l'origine de ce carnage, ce que démentent Damas et Moscou.
Dans un pays comme la Syrie, où il n'y aura pas de victoire militaire, nous allons devoir poursuivre le difficile travail de la diplomatie qui vise à mettre fin à la violence et à apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin.
Cette tragédie syrienne sera devant l'histoire une honte pour la communauté internationale si nous n'y mettons pas fin rapidement. Alep est une ville aujourd'hui martyre, qui restera dans la mémoire des nations comme une ville martyre. Eh bien, je n'ai qu'un seul mot à dire, ça suffit.
Il n'y a pas de nourriture, les magasins sont fermés, il ne reste plus rien dans cette ville. Détruit, tout est détruit.
Le flot est ininterrompu. Un baluchon pour seul bagage. Ses habitants d'Alep Est fuient. L'armée de Bachar el-Assad a pris le contrôle de leur quartier.
Aide-moi, s'il te plaît. Vous êtes en sécurité ici, grâce à Dieu.
Des rebelles aident ses familles à passer dans le quartier qu'ils contrôlent toujours. 6000 personnes s'y sont réfugiées en 3 jours. Car depuis samedi, les combats au sol font rage dans les quartiers est de la ville. Appuyée par les militaires russes, l'armée du régime a fait une percée dans le bastion de la rébellion. Jusqu'à ce week-end, les rebelles syriens en vert sur la carte tenaient en bloc l'est de la ville. Samedi, un premier quartier tombe, 3 autres suivent, un revers sans précédent depuis 2012 pour les rebelles.
Donc cette démission des sociétés démocratiques face à des actes de barbarie, qualifions-les comme elles sont particulièrement préjudiciables pour les populations civiles.
L'historien Jean-Pierre Filu, ce matin, avait des mots très durs à l'encontre des Nations Unies. Alep pourrait être le tombeau de l'ONU, selon lui, comme Mario Betati, également invité au micro de France Culture, juriste, professeur de droit international, qui disait, vous l'entendiez, que l'Occident aurait démissionné. Vous pensez cela aussi, Jean de Sigler, que les démocraties occidentales ont démissionné face au drame d'Alep?
Je vous dis 2 choses. D'abord, ce qui nous sépare des victimes, maintenant, à Alep, les martyrs, les familles, ce qui nous sépare des victimes, ce n'est que le hasard de la naissance. Hein, ceux qui meurent maintenant, ça pourrait être votre famille, vos enfants, etc. C'est le hasard de la naissance. Et la conscience de l'identité, moi je suis l'autre, l'autre et moi, est au fondement même de la civilisation occidentale telle qu'elle est définie par les Lumières ou par l'héritage chrétien, etc. etc. Donc, évidemment, ici, cet Occident, il faut une insurrection des consciences. Ce que contre quoi je m'élève tout le temps, c'est ex-filtrés, expatriés, les responsabilités. On discute de gouvernement, de diplomates, etc. Mais non, c'est nous, la société civile dans les démocraties, est une puissance, est une force, une nouvelle force historique. C'est nous qui devons exiger.
Par exemple, pour Alep, qu'est-ce que vous dites ? Pour Alep, concrètement, vous dites c'est aux populations de se mobiliser aussi. Mais...
Non, nous.
Oui, j'ai compris.
Pour vous. Que nos oui. gouvernements, il faut que le plan Kofi Annan, je reviens simplement, que le plan Kofi Annan soit rapidement mis en œuvre par consentement au Conseil de sécurité, ce qui est tout à fait possible.
C'est-à-dire l'abolition du droit de veto.
L'abolition du droit de veto. Ensuite, que... je pense que la diplomatie multilatérale soit renforcée par des mesures immédiates d'ouverture des négociations, soit multilatérale. L'arrivée des casques bleus est absolument urgente sur des lignes d'armistice, de cessez-le-feu qui seront négociées immédiatement et que le siège des 41 villes et 41 bourgs qui sont encerclés et dans le silence des gens meurent de faim, du nord au sud, eh bien, des corridors humanitaires sous contrôle des Nations Unies, pas des services secrets de Assad, mais sous contrôle des Nations Unies, soient ouverts. Tout ça, le droit international le permet et l'exige. Et si nous, société civile dans les démocraties, nous exigeons de nos gouvernements des mesures énergiques, eh bien, ça se fera. Et c'est pour ça qu'il y a une espérance... réel, il n'y a pas de fatalité dans l'horreur du monde.
L'espérance pour le droit de veto, quand même, c'est assez une espérance, on va dire, un petit peu difficile à,
pas du
difficile
tout, pas
à
du
matérialiser,
tout.
Parce qu'on sait très bien que le droit de veto, il est né précisément du fait qu'il y avait un certain nombre de puissances dominantes après-guerre et oui. qui ont voulu s'engager dans le droit international, mais sans forcément abandonner une partie de leur puissance, malgré tout, de contrôle par rapport à l'ensemble des pays. Est-ce que vous pensez qu'on arrive aujourd'hui dans une situation où chacun accepterait de compter pour une voix dans cette Assemblée des Nations Unies, alors que tout est un rapport de pouvoir dans le monde?
Vos remarques historiques sont tout à fait fondées, sont tout à fait justes, ce que vous dites sur l'histoire. Mais aujourd'hui, matériellement, il y a le choix entre la déréliction des Nations Unies, leur disparition ou leur dissolution, quelques organisations spécialisées, le Programme Alimentaire Mondial, l'Organisation Mondiale de Santé, etc., qui continuera. Mais l'ordre du monde nouveau, sans guerre, avec... protection des droits de l'homme pour chaque être humain, chacun des 7,3 milliards d'êtres humains qui sont sur Terre, la lutte, l'élimination de la misère et de la faim, ces trois pas utopie, je déteste le mot utopie, ces trois buts pour lesquels les Nations Unies ont créé, disparaîtraient de la planète. Et je pense que l'espérance, et c'est, vous pouvez m'accuser que le titre du livre « Chemin d'espérance » soit paradoxal vu ce qui se passe sur le terrain, aujourd'hui, à cause de la situation matérielle en Syrie, cette guerre peut durer 20 ans, 30 ans, si les Nations Unies ne sont pas, ne renaissent pas de leur centre, interviennent maintenant par les moyens que le chapitre 7 de la charte leur donne, eh bien, les conséquences produites, les millions et millions et millions de réfugiés ou les monstres djihadistes qui frappent au cœur même des nations dominatrices d'une façon horrible et incontrôlée. Et ce terrorisme-là, malgré la capacité très grande des services de renseignement français, etc., etc., ne peut pas être éliminé, ne peut pas être, tout le monde le dit, ne peut pas être maîtrisé. Eh bien, peut être, il faut terminer le conflit syrien par les moyens qu'a l'ONU, il faut les terminer pour que ces monstres djihadistes et les autres conséquences pour les pays dominateurs, les nations européennes par exemple ou américaines, cessent. C'est la situation matérielle qui exige la réforme des Nations Unies. Je pense qu'au Quai d'Orsay, que en fait, dans les gouvernements occidentaux, par exemple, et même nos gouvernements russes, cette évidence se fait jour aujourd'hui et la réforme Kofi Annan, éliminer le droit de veto qui paralyse l'action dans différents endroits du monde, mais là on parle de la Syrie, des Nations Unies, l'action de paix et du rétablissement du cessez-le-feu, puisse se réaliser très très rapidement. Mais tout dépend de l'insurrection des consciences, de la pression démocratique dans nos pays respectifs.
France Culture, il est 13h17.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jespert.
Et notre invité aujourd'hui est Jean Ziegler, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour son ouvrage « Essai chemin d'espérance » avec un long sous-titre « Ces combats gagnés, parfois perdus, mais que nous remporterons ensemble », un ouvrage qui vient de paraître au Seuil. Dans cet ouvrage, Jean Ziegler, vous revenez aussi sur la stratégie impériale américaine. Vous l'écrivez, l'ONU est gouvernée par un rigoureux principe démocratique, mais sur le papier, en vrai, il y a cet impérialisme américain que vous n'avez cessé de dénoncer. Le jeu diplomatique des classes dirigeantes des États-Unis est complexe, selon vous, mais quel que soit le parti au pouvoir à la Maison-Blanche et au Congrès, les élites dirigeantes américaines, dans leur grande majorité, croient profondément à leur manifeste destinée, à leur mission providentielle. Mais voilà qu'un nouvel homme est arrivé, Jean Ziegler, à la tête des États-Unis, Donald Trump. Alors est-ce qu'il peut, pour vous, aujourd'hui, parce qu'il n'appartient pas à l'élite, parce qu'il a des envies, des désirs souverainistes, protectionnistes, peut-être de retrait aussi sur la scène mondiale pour les États-Unis, est-ce qu'il peut, lui, incarner un chemin d'espérance, Donald Trump ?
Bah, rien, pas du tout. Alors, vraiment, c'est le contraire. C'est le cauchemar pour les Nations Unies. Trump est le cauchemar. Je voulais dire une chose plus générale sur ce que le chapitre de mon livre qui s'appelle « La théorie, la stratégie impériale ». Elle est paradoxale. Les Nations Unies sont parmi les fondateurs, évidemment, de San Francisco, 45, des Nations Unies. Le terme Nations Unies naît pour la première fois, énoncé pour la première fois par Roosevelt, sur un navire américain où il s'est rencontré, navire de guerre américain où il s'est rencontré avec Churchill en 41, en août 41, vous imaginez, avant Stalingrad, avant l'Allemagne, Hitler, les monstres nazis dominent l'Europe tout entière et ses visionnaires, Roosevelt, il n'est même pas encore en guerre, puisque Pearl Harbor, c'est en décembre 41. En août 41, ces deux visionnaires, Churchill et Roosevelt, disent, nous allons vaincre le fascisme. Ça va prendre 30 ans, 40 ans, mais nous allons vaincre. Et là, après, nous allons créer un ordre, un monde nouveau, avec les trois piliers que j'ai cités, etc., etc., qui sont dans la charte aujourd'hui. Lutte contre la misère, protection des droits de l'homme et fin de la guerre, sécurité collective. Les Nations Unies doivent beaucoup aux États-Unis, à la vision de Roosevelt dans la formulation de la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et surtout aussi financièrement, 26% du budget des Nations Unies sont payés par les États-Unis. Pour les casques bleus, c'est le budget spécial le plus fort, 1,6 milliard. Budget spécial, là c'est 82% que les Nations Unies payent. Pour le programme alimentaire mondial, ils payent plus du 60%.
Donc là, il n'y a pas d'impérialisme là.
Non, attendez. Ah bon. D'une part, je parle d'un paradoxe. D'une part, il y a un engagement des Nations Unies, des États-Unis, institutionnellement, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'arrivée de Trump, du côté de l'institution multilatérale. Et en même temps, les États-Unis, d'une façon très ouverte, en tout cas depuis Kissinger, produisent une stratégie impérialiste. Quand les Nations Unies les serrent, et ils contrôlent, je vous garantis, ça je le sais vraiment d'expérience.
Ils jouent le jeu des Nations Unies, l'organisation, quand ça les serre. Et quand ça les desserre, selon vous,
par exemple, les nominations des fonctionnaires principaux ou des mandataires principaux, c'est les Nations Unies qui les contrôlent. Avant que le secrétaire général nomme quelqu'un, ça passe à la CIA ou à la mission américaine, etc., etc. Ils contrôlent les Nations Unies financièrement et personnellement. Mais quand ça ne les sert pas, eh bien, elles font ce qu'elles veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Par exemple, l'attaque de l'Irak en mars 2003. Le Conseil de sécurité a dit qu'il n'est pas question. On n'attaque pas l'Irak, on ne donne pas le feu vert. La France, magnifiquement, Chirac, Villepin, ont joué leur jeu. Hein. On dit la France s'est opposée, l'Allemagne aussi, etc. Enfin, le Conseil de sécurité, c'était la France. Le président Bush a dit, Conseil de sécurité, quoi qu'il dise, ça ne nous intéresse pas. On bombarde Bagdad, avec la conséquence qu'on a maintenant. Donc, à la fois, les Nations Unies jouent le double jeu permanent. Ils infiltrent, utilisent les États-Unis, et en même temps, quand ils ne peuvent plus les manipuler, méprisent les Nations Unies et font leur politique impérialiste, dictée par les intérêts pétroliers pour l'Irak, par exemple, de toujours.
Alors
de toujours.
J'en reviens, pardon, Jean Ziegler, à ma question sur Donald Trump, qui se cherche actuellement son chef de la diplomatie. Il a notamment rencontré, consulté celui qu'on considère comme un républicain modéré, Mitt Romney, qui à la sortie de ce rendez-vous a déclaré, tout sourire, « Je pense que vous allez voir l'Amérique continuer à diriger le monde lors de ce siècle et j'ai la conviction que le président élu est justement l'homme qu'il nous faut pour nous conduire vers cet avenir meilleur. » Attention, chemin d'espérance, peut-être, Jean Ziegler. Pour vous, quelles Nations Unies ou quelles Nations désunies Donald Trump prépare-t-il pour demain ?
Dans les cercles dirigeants américains, il y a deux théories qui s'affrontent et une qui l'emporte en général. La théorie de la diplomatie multilatérale et donc institutionnelle des Nations, soutien aux Nations Unies, et la théorie, la stratégie impérialiste, qui n'est pas totalement idiot, qui signait la formulée, le State Department le pratique, disant la diplomatie multilatérale entre 193 États membres des Nations Unies, les négociations sans fin, etc., ne peuvent jamais régler les problèmes du monde. Il faut une puissance mondiale qui a les moyens matériels, qui a la mission morale, la manifeste destinée, sur le dollar, in God we trust, qui a reçu par Dieu la mission d'instaurer la justice, la paix sur terre. Ça, c'est la conviction profonde, enfin, la conviction profonde d'un grand nombre de sociétés des classes dirigeantes américaines.
Mais ça ne changera pas sous la présidence.
Ça ne changera pas.
Mais attendez, Trump, il dit le compte. Il n'a pas du tout ce discours-là. Il a un discours plutôt, on va protéger les États-Unis du monde. Il n'a jamais évoqué cette fameuse manifeste Destiny, qui était plutôt un programme républicain à l'ancienne, à la George Bush. Et on a le sentiment que lui, il veut faire du business et le reste, ça ne l'intéresse pas plus que ça.
Écoutez, en tout cas, on a très très peur aux Nations Unies que celui qui, le nouveau secrétaire d'État qui était aussi en consultation, soit James Bolton, que vous connaissez, qui était le secrétaire, qui était l'ambassadeur de Bush, du fils donc de George W. Bush, aux Nations Unies, qui en mars 2006 a demandé qu'on liquide le Conseil des droits de l'homme et le Haut Commissariat pour les droits de l'homme, et que c'est les grandes puissances qui s'occupent des droits de l'homme. Il a malheureusement échoué pour deux voix, enfin heureusement échoué pour deux voix à l'Assemblée générale. Si c'est ce Bolton, qui était le conseiller de politique étrangère de Trump durant la campagne, qui est secrétaire d'État, Eh bien, pour les Nations Unies, ça va être extraordinairement difficile, parce qu'il est...
On parle plutôt de Petraeus aussi.
Oui, mais il est pire encore, Petraeus. Bon. C'est un militaire
d'accord,
obtus,
mais vous n'allez pas nous faire croire que Donald Trump croit vraiment, lui, que Dieu lui a dit que les États-Unis doivent dominer le monde. Non, c'est pas son état d'esprit.
Donald Trump, c'est un spéculateur immobilier.
Voilà, c'est ce que je voulais.
Un spéculateur immobilier, vous avez raison, il n'a pas des grandes pensées à la Kissinger sur la manifeste Esténie, etc., etc., qui est très, très critiquable, mais enfin, qui est intellectuellement structuré. Trump, c'est un spéculateur immobilier, mais qui est à la tête de la plus grande puissance nucléaire, politique, idéologique malheureusement, du monde. Et si l'opinion publique mondiale, enfin nous, si on ne se mobilise pas pour une renaissance des Nations Unies, et donc pour empêcher la sortie des Américains de l'organisation qui signifierait la mort financière de l'organisation et la fin de l'universalité de l'organisation, eh bien, le pire peut arriver, parce que l'espérance est le monde multipolaire, et la diplomatie multilatérale, sont les Nations Unies, les casques bleus qui protègent les civils, les droits de l'homme qui sont assurés pour chaque être humain sur Terre. Ça devrait être possible, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Et en démocratie, toute mobilisation est une question de décision, de volonté des citoyens et citoyennes.
Jean Ticler, à Cuba, berceau de la Révolution, deuil national depuis la disparition de Fidel Castro.
Chefs d'État et de gouvernement rendent hommage à Fidel Castro. Des centaines de milliers d'anonymes sont venus écouter les discours de plusieurs dirigeants, du moins ceux qui ont accepté l'invitation. Parmi eux, le premier ministre grec, Alexis Tsipras, mais aussi le président vénézuélien, Nicolas Maduro.
Hoy, comandante Raúl Castro.
Aujourd'hui, commandante Raúl Castro, nous avons le devoir de faire perdurer le socialisme bolivarien, l'esprit de José Martí et le socialisme chrétien du XXIe siècle, pour eux, à travers eux et avec eux. Le Cubain Raúl Castro a rendu hommage à son frère en rappelant dans son discours les étapes historiques de son gouvernement de la réforme agraire à la mort du Che.
Hasta la victoria.
La semaine de deuil national s'achèvera vendredi à Santiago de Cuba, berceau de la Révolution.
Critiqué par les Nations Unies et par ses opposants pour des violations des droits de l'homme, Fidel Castro, décédé, dont vous l'aviez rencontré, Jean Ticler, à 9 reprises. C'est une page de l'histoire qui se tourne avec sa disparition.
Je ne crois pas, parce que la révolution a plus de 50 ans, c'est-à-dire les Cubains ne disent pas révolution, ils disent processo revolucionario, c'est-à-dire cette formidable transformation d'une société de misère, de racisme, dominé par quelques barons du sucre, qui a été abattu en janvier 59 avec le triomphe des survivants de la guérilla de la Sierra Maestra, a transformé totalement ce pays, la sortie de la misère. J'étais 8 ans rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation. Eh bien, chaque enfant a accès à la médecine de haute compétence. J'ai moi-même subi une transfusion sanguine à Cuba, ils m'ont sauvé la vie. Je peux en dire que Ciro Garcia, à l'hôpital, il fonctionne. Hein. C'est très haute.
Cela dit, la démocratie n'allait pas si bien que ça quand même.
Oui, non, c'est vrai, liberté de presse, il n'y a pas de multipartisme, etc. Mais ça viendra. Ça viendra dans le monde où tous les 5 secondes d'un enfant meurt de faim, là où enfin des enfants mangent, vivent, ont une vie digne et humaine. Ça, c'est une conquête formidable. Les institutions à Cuba sont solides. Les 11 millions de Cubains, dans leur majorité, adhèrent certainement aux valeurs fondatrices de la Révolution. Et donc, rien n'est en danger. Fidel disparaît après avoir fait son travail. Mais cette révolution, ce processus révolutionnaire va continuer.
Une révolution qui a valeur d'exemple pour vous, Jean Ticler, et vous restez confiant, là comme ailleurs, sur l'avancée progressive vers plus de démocratie. Enfin, ces mots que vous mettez en exergue de cet ouvrage Chemin d'espérance, paru au Seuil, d'abord ils vous ignorent, puis ils se moquent de vous, puis ils vous combattent, puis vous gagnez. C'est signé du Mahatma Gandhi. Merci beaucoup à vous d'être passé dans la deuxième partie de la Grande Table, Jean Ticler, sur le fil des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Farah Kéram, merci à toute l'équipe de la Grande Table, Claire Maillot, Clémence Marie, Paris, Jean-Christophe Brianchon et Henri Leblanc. Aux manettes ce midi, Perret Legras. À demain.